Marcel milite sur le quartier populaire de Rennerie à Toulouse depuis 1976. Il nous explique sa vision de l'évolution du quartier et la tendance depuis une vingtaine d'années à mettre en avant le bâti et l'urbanisme au détriment des habitants.
Marcel, j'habite le quartier depuis le 25 septembre 1976. Mais en 1976, le quartier était essentiellement composé de gens de l'aristocratie ouvrière. C'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire. C'est-à-dire de gens ouvriers de l'Ognat, ouvriers du bâtiment, mais à plutôt bon salaire. Il y avait des ingénieurs, il y avait, etc. Je veux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les couches moyennes. Moi, c'est un mot que j'aime pas, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on appellera ça comme ça. Et comme critère, par exemple, moi, j'habite un HLM. J'ai eu l'HLM ici à la Rennerie en 2 heures. Et quand je suis allé demander l'HLM, l'employée de la langue de Seine qui a fait le dossier a appelé sa chef. Il lui a dit, voilà, c'est pour un appartement, on en a un de libre. Ils ont les ressources. C'est pas... Ils ont besoin d'un appartement HLM, c'est il y a assez d'argent pour payer le loyer. Ce qui est tout à fait le contraire de l'esprit des HLM d'ailleurs. Donc, mais ça montre bien comment était pensé le quartier, y compris par les responsables publics. Toute la période où de plein emploi, on va le dire comme ça, hein, où le quartier était riche, il y avait un mouvement très très fréquent de population sur le quartier. C'est-à-dire que les gens habitaient ici entre guillemets de bons salaires, si on peut, car toujours salaire de, hein, c'était toujours des salaires, donc bon salaire, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, meilleur que ce qu'aujourd'hui en proportion, donc mettez de l'argent de côté et partez à maison individuelle. Il y avait quand même ce rêve de la maison individuelle à l'opposé du collectif. Et était remplacé par d'autres gens qui reprenaient ce cycle, donc ça tournait beaucoup, mais de manière normale, on va dire, de manière saine. Et puis est arrivé un moment où il n'y a plus d'argent. Donc les gens avaient moins de salaire, l'ONIA se cassait la figure, etc. L'ONIA qui est devenue la ZDF aussi, après. Et donc ça s'est paupérisé. Et je crois qu'on est dans une logique de paupérisation du quartier. Et se paupérisant, les gens qui ont pu continuer à partir sont continués à partir. Et les autres se sont retrouvés, je veux dire, un peu prisonniers. Je me souviens, dans les années 76-80, nous allions à la briqueterie, militer à la briqueterie. La plupart des gens ont été rapatriés ici. Donc, je discutais avec une dame encore plus âgée que moi, on va le dire comme ça, qui habitait la briqueterie et à qui les chalets disent « Vous êtes... ici, dans un T6, mais ça ne se justifie plus puisque vos enfants ont grandi, etc. » Alors qu'elle abrite son fils, sa belle-fille et les deux enfants, donc du coup ça justifie toujours un T6 quand on regarde de près. Mais bon, vous lâchez l'âme, ça va. Donc on veut vous déménager. Et elle dit, mais enfin j'ai déjà quitté mon pays, quitté la briqueterie. Et on me fait encore quitter ici, c'est là où sont nés mes enfants, c'est là où... mon mari est mort, on veut me priver de toute mon histoire. J'oublie pas l'ancien maire de Lisse qui disait « Les immigrés, c'est comme la poussière, ça se déplace. » Ah ben, je crois que ça se paupérise jusqu'au point de rupture qui est la mort d'Habib, qui a été assassiné par la police, qui a été un point de rupture, mais qui n'est qu'un point de rupture. Ça marque une étape, mais c'est pas le. Il y a quand même un processus absolu de paupérisation et qui va de pair avec la, la perte de confiance dans les organismes du quartier. Entre autres, la perte de confiance envers le collège. C'est assez frappant qu'on voit à partir des années 90, milieu des années 90, qu'on voit arriver l'idée qu'il ne faut surtout pas que les enfants aillent au collège ici et trouver toutes les combines possibles imaginables pour quitter le quartier. Plus le fait qu'il n'y a plus aucun espace d'espoir pour les jeunes. Enfin, il n'y a plus... Ça ne sert à rien de bosser à l'école, de toute façon, disent les jeunes, puisque de toute façon, ici, on a des copains, ils sont à bac plus 5, bac plus 8, ils sont chômeurs. Ce qui n'est pas toujours, enfin, pas aussi mécanique que ça, mais c'est comme ça que c'est vécu. Alors, la mort d'Habib, c'est un jeune dont j'ai bien connu le père, parce qu'il a travaillé comme intérimaire dans une entreprise où j'ai travaillé, donc je connaissais bien le père. J'ai bien connu, on a travaillé ensemble pendant quelques mois, disons, et qui a 17 ans, en train de voler une voiture, donc faut quand même toujours dire les deux côtés des choses, se fait surprendre par une patrouille de police dont l'histoire a démontré qu'ils étaient tous complètement sous. Et pour l'arrêter... Le chef de patrouille avance avec son arme de service. Le coup part. J'y étais pas, donc on va pas. Le coup part. Et le jeune Habib reste baignant dans son sang. Et la police s'en va, sans prévenir les secours, sans rien. Et ça a été jugé en faveur de la police. Quand il y a eu jugement, je ne sais plus le jugement exact, mais enfin, je crois qu'il y a eu relax, pur et simple. Alors que, à mes yeux, alors ça a été perçu d'ailleurs par tout le quartier et surtout par les jeunes comme un scandale pas possible, on avait tué quelqu'un. Ce qu'il y a de grave dans cette affaire, c'est pas tant qu'il soit arrivé comme ça avec son arme, etc., qui est déjà très grave, mais surtout en ayant blessé quelqu'un, ne pas avoir prévenu le secours. Ça, il y a quand même à minima une faute très très grave. Indépendamment, on peut toujours dire le gamin s'est débattu, le coup est parti tout seul, ça on n'y était pas, on peut pas, moi je ne suis pas compétent. Mais par contre, le fait qu'il n'ait pas prévenu les secours, ça par contre on peut dire que c'est quelque chose de très très grave et qui a marqué une rupture jusqu'à ce jour définitive entre la police et les jeunes du quartier. J'ai vu beaucoup de tentatives hein, au moment de la Bible, mais même après, quoi, il y a eu beaucoup de tentatives. Elles ont toujours échoué au bout de quelques temps sur le point de vue. Donc il y a eu une tentative quand il y a 3-4 ans maintenant, où la police bloquait le quartier tous les jours. Moi je me souviens, j'étais en train de lire un tract, je sors du métro, je suis en train de lire un tract, je prends l'escalator, je lis mon tract, je lève la tête, je me trouve avec une arme pointée sur moi. Alors, je ne suis pas sûr que le flic me pointait, bien évidemment, mais c'est l'impression que j'ai eue. Donc c'était une période assez hallucinante. Il y a des gars qui expliquent qu'ils se sont fait contrôler 10 fois. Quand les gars partent travailler le matin, la police bloque les ronds-points et bloque tout le quartier. Alors le but du jeu, ben, c'est à la fois d'emmerder les jeunes, à la fois d'arrêter les sans-papiers, et de lancer l'idée qu'il y a une frontière, un peu, c'est pour ça qu'on a pris le terme, un peu comme entre Israël, comme Israël en Palestine, qui indique qu'il y a des territoires qui sont infranchissables. Groovy with gold in your pocket, riding a wild set of wheels at an easy pace. Are you there? Driving along. Alors, cette assemblée était à la fois intéressante et à la fois chiante, mais c'est mon point de vue tout à fait personnel. À la fois intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de gens, y compris des jeunes et des moins jeunes, qui se sont rassemblés, des gens largement scolarisés, y compris des étudiants, des profs, et des gens, et des manœuvres. Enfin, moi, j'aime beaucoup, je pense même que c'est la seule force politique possible en France aujourd'hui. J'aime beaucoup que se rencontrent des gens qui ne devraient jamais se rencontrer. Et là, se sont rencontrés des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas programmés pour ça. Et donc, il y a eu cet aspect-là. C'était un aspect passionnant, avec beaucoup d'avancées, etc. Et après, comme toujours dans ces cas-là, c'était aussi dirigé ou avec une volonté de pouvoir, en tous les cas, et de direction, et ça a fonctionné pour eux, par des gens dont le souci était autre que ce qui arrive aux gens et ce que les gens sont capables de faire. Que le souci était comment je me fais une place sur le quartier, etc. Et ça a mené un déplacement des responsabilités et des objectifs qui auraient dû être ceux des habitants du quartier, qui, au lieu de réfléchir entre eux ou entre nous, ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, etc., ont été immédiatement centrés vers la mairie et la préfecture. Alors ça a donné lieu à une grande manifestation qui a été à la mairie, puis à la préfecture, etc. Donc ça pouvait être magnifique dans son apparence, et en réalité c'était le champ du cygne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien eu à purer, comme toujours. C'est-à-dire que si on veut détourner les gens de leur capacité à faire, il suffit de leur demander d'aller voir les autorités. Ils savent très bien que ce n'est pas eux qui vont aller les voir, c'est toujours les gens compétents qui vont parler à la place d'eux, et à partir de là, il n'y a plus rien. C'est classique. Se met en place sur le quartier, on en sera à la fin du mois, à la 4e réunion, un collectif d'habitants du quartier, d'habitants et de travailleurs du quartier. À la première réunion, il y avait 72 personnes, donc c'est vraiment un gros truc d'habitants du quartier qui s'est créé à partir de deux agressions. Une employée du collège et l'autre une animatrice du CLAE. Ça n'a pas eu lieu en même temps, mais la conjonction des deux ont fait qu'à un moment donné, des parents d'élèves et le directeur du CLAE dit « ça ne peut plus durer, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. » Donc ça provoque un grand témoin, et ça amène à une réunion qui a lieu ici d'ailleurs, et où il y a plus de 70 personnes, débats, réflexions, etc. Il y avait un représentant du commissaire de police, trois conseillers municipaux, aussi, il y a aussi du gratin, entre guillemets. Et il y avait aussi des habitants et les associations, enfin des associations. Alors là, mon long préambule pour en arriver là, et là où c'est marrant, c'est qu'apparaît dès le départ une ligne de fracture, une ligne de partage, entre ceux qui d'un côté disent « qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, gens du quartier ?» Alors, ce qu'on appelle gens du quartier, c'est bien les gens qui habitent le quartier, les gens qui s'intéressent au quartier ou les gens qui travaillent sur le quartier. Hein, c'est pas « montre-moi ton adresse pour savoir si tu as droit à venir avec nous, quoi ». Donc tout le monde, c'est ouvert à tous, donc, en réalité. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire entre nous, ça d'un côté, la ligne d'un côté, et de l'autre, il faut demander à la police qu'elle se comporte comme ça, il faut de la police municipale pour qu'on n'y aurait pas droit, il faut aller demander ça, enfin, une espèce de catalogue revendicatif dont on sait que l'objectif va être les institutions, et si c'est les institutions, ça va être obligatoirement les spécialistes des discussions avec le préfet qui vont y aller, et donc les gens vont être encore scousés. Bon, je crois qu'on a provisoirement gagné là-dessus. C'est-à-dire que les gens sortent à la fin du mois un texte en direction des habitants. Donc c'est les gens du quartier qui écrivent aux gens du quartier, c'est pas vrai. Je n'y allais plus d'ailleurs et je n'y vais plus, même à la nouvelle municipalité. Ce sont au pire des réunions de propagande, au mieux des réunions d'explication de ce que les autorités décident de faire. Je laisse le choix. Moi, je fais mon choix, mais bon, soyons sérieux. Mais c'est, y a pas, pour moi, le sens que j'avais, mais concertation, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Il paraît que le président de la République va se concerter avec les... D'abord, c'est avec les chefs syndicaux et pas avec les... Mais après, il va se concerter. Mais se concerter, c'est des mots qui, pour moi, ne veulent plus rien dire. Si ça ne veut pas dire on décide ensemble, on réfléchit ensemble à égalité de ce qu'on doit faire, c'est plus la concertation, c'est je t'écoute. Constat absolu, pour l'instant, ça veut dire immense destruction. Moi, je vois quoi ? Je tourne la tête. Là, je vois un immeuble qui a été détruit, mais ça donne un aspect un peu de Beyrouth à une époque, quoi. C'est-à-dire que rien ne l'a remplacé, une façade qui n'est pas finie, des gens qui ont été déplacés. Quand on déplace des gens, ce n'est pas qu'un problème de bâti, la vie. C'est un problème, quand on déplace des gens, on détruit leur histoire. Moi, j'ai mis plus de 10 ans à me faire un réseau social sur le quartier. Si on me déplace, il me faut encore 10 ans. Mais à mon âge, dans 10 ans, j'aurai quel âge ? Et puis, j'ai pas envie de recommencer. Mes amis sont ici. C'est un peu comme quand on expulse un sans-papier. Je veux dire, les préfectures disent toujours, mais il n'est pas privé d'attache familiale dans son pays. Certes, certes, pour beaucoup, pas tous, mais enfin, certes. Mais en même temps, on l'a privé de ses amis. Mais on m'a privé à moi d'un ami qu'on a expulsé, que je ne vois plus. Et donc c'est cet aspect-là qui est un aspect important et qui n'est jamais pris en compte. On est dans une société où problème urbain ou problème de bâti, etc., c'est immédiatement une destruction. Puis après on voit. Ça c'est fabuleux, on a su détruire deux immeubles à la Rainerie, mais on n'a rien vu de plus. À minima, moi je crois qu'effectivement c'est normal qu'une ville bouge, que ça change, qu'il y ait des mouvements. Mais à minima, surtout que ce n'est pas l'espace qui manque non plus malgré tout, on commence par construire, puis après on détruit. Puis on part de la vie des gens, on ne part pas de la vie de l'urbaniste. Et on avait l'impression, avec l'ancienne municipalité, mais la nouvelle n'a pas montré qu'elle pensait autrement, mais bon, mais pour l'instant c'était avec l'ancienne municipalité, qui voulait construire un quartier pour carte postale prix de vue aérienne ou prix d'hélicoptère. C'est-à-dire que l'idée qui était importante, c'est qu'est-ce qu'on allait montrer à l'extérieur du Mirail, mais que ce n'est pas les gens qui comptent.
Mode d'emploi de la concertation. Petit 1. Avoir d'abord l'espoir que quelque chose d'important va y être obtenu. Petit 2. S'asseoir sur une chaise pour écouter ce que l'on sait déjà. Petit 3. Laissez parler les spécialistes qui en savent moins que n'importe qui. Petit 4. Si on a quelque chose à dire, attendre que les personnes interviennent à notre place. Petit 5. Si on est venu pour défendre sa maison, être pour le projet de rénovation de la ville. Un grand projet de ville. Petit 6. C'est dire que l'on a échappé à l'exil en banlieue. Petit 7. Être heureux à la fin d'avoir remporté une bataille, la municipalité détruira ce qu'elle veut au moment qui lui sera le plus profitable.